Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mounde.
Chenni Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Insécurité et processus de paix, quelles solutions? Environ 2 ans après la signature de l'accord de paix, l'insécurité ne faiblit toujours pas dans le pays. Les affrontements intercommunautaires ont eu lieu ce week-end à Kidal, selon des sources locales. Ce conflit a déjà fait une trentaine de morts et de nombreux dégâts matériels. La société civile de la région a condamné ces actes, selon son coordinateur. Les groupes armés sont les seuls responsables qui ravivent les tensions intercommunautaires. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits? Faudrait-il pas accélérer la mise en œuvre de l'accord? Nos invités, Sidi Mohamed Ishrach, gouverneur de Kidal, Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, Boubacar Bokoum, politologue, et Baba Dakono, juriste. Je suis Mohamedou Touré, Mamadou Ouattara est à la technique.
Le Grand Dialogue.
Alors, ce soir, nous parlons d'insécurité et de processus de paix. Quelle est la solution? La dernière attaque, la dernière violence remonte à ce week-end à Kidal, là où il y a eu un affrontement intercommunautaire et on parle déjà d'une trentaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Monsieur Bokoum, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces conflits intercommunautaires à Kidal?
Merci. Avant d'intervenir sur la question, il me plairait ici de présenter toutes mes condoléances et toute mon affliction par rapport à ce qui s'est passé à Kidal. Et au-delà de cet aspect, il faut comprendre juste que, comme vous venez tout de suite de le dire, quand vous n'êtes pas arrivé à terme du processus, en termes de démobilisation, de cantonnement, ce qui est sûr, vous aurez toujours des réserves d'insécurité. Donc je pense qu'en grande partie, le fait qu'on n'ait pas maîtrisé le cantonnement et aller au fond du DDR, cela explique aujourd'hui que des mécontents, des gens qui ne sont pas encore dans les bonnes dispositions, se mettent à saper encore le moral des troupes et des populations civiles.
Alors, monsieur Sidi Mohamed Ishrach, vous êtes gouverneur de Kidal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Oui, bonjour, madame, monsieur. Moi, je suis effectivement sur la même longueur d'onde que monsieur Bokoum, parce que j'estime que si on avait fait, si les groupes armés avaient accepté, si l'aménagement avait pu mettre en place les mécanismes de DDR et de campement, cela aurait permis de contrôler les éléments des groupes armés et par conséquent de s'attaquer aux personnes armées qui ne se reconnaissent pas dans les différents groupes et qui malheureusement aujourd'hui sont en train de créer l'insécurité au nord du pays. Je suis d'autant plus d'accord avec M. Bokoum que depuis quelque temps, on a l'impression que beaucoup de jeunes armés qui appartenaient aux différents groupes sont en train de s'en émanciper et prennent leur indépendance et se mettent en tout cas dans des positions où ils commettent des actes qui créent l'insécurité dans toute la région.
Alors, qui sont les groupes armés qui sont responsables de cette situation?
Moi, je ne vais pas accuser un groupe par rapport à un autre. Je trouve que pratiquement depuis 3 mois, les actes de banditisme, les actes de provocation se répercutent dans la région. Ils succèdent, plus le temps avance, plus ces actes-là se succèdent de façon plus accentuée. Donc je ne vais pas jeter la pierre à un groupe en particulier. Mon rôle d'administrateur de la région consiste à rapprocher les esprits, à les calmer. Et donc je voudrais continuer donc à jouer ce rôle-là et ne jeter la pierre à personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la société civile est suffisamment impliquée dans la recherche des solutions. Et notre force, je crois, c'est que chaque fois qu'il y a des problèmes, que l'on se lève à temps pour essayer de les circonscrire.
Alors, est-ce que vous avez le bilan?
Malheureusement, il n'y a pas de bilan précis parce que c'est des choses qui se passent souvent dans les campagnes où il n'y a pas d'informations. On reçoit des bribes d'informations, mais jusqu'à la date d'hier, les deux côtés, chacun me dit qu'on a perdu 10 personnes par-ci, 10 par-là. Donc je crois que les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, d'une trentaine de morts, de disparus, peut-être une base de réflexion.
Alors, écoutons déjà la réaction de la société civile de Kidal par rapport à ces affrontements.
Attaqué à des pauvres populations par leur appartenance ethnique, vraiment c'est une chose que nous regrettons. Et les groupes armés qui sont les acteurs se sentaient les premiers responsables, se sentaient qu'ils peuvent aussi trouver une solution à ces conflits. Les populations civiles sont les victimes. Ce que nous avons fait à Kidal, c'est qu'on a essayé de voir le creux derrière les combattants pour qu'ils épargnent les pauvres éleveurs qui n'ont rien à voir avec leurs conflits et les petites populations qui sont dans la ville de Kidal. Et je vois qu'il y a une perspective de retour de l'État déjà. C'est possible que ça va contribuer à la tranquillité de la région. Et en attendant qu'une solution soit trouvée, des petits éleveurs qui partent, qui ont un combat journalier pour amener de l'eau et peut-être leurs animaux dans les pâturages, vraiment mon cri, c'est qu'on les laisse tranquilles.
Alors je rappelle que nos deux autres invités qui avaient confirmé leur participation ne sont pas encore là avec nous. Alors la question qu'on pose à Monsieur Bokoum, vous êtes politologue, c'est que la société civile à travers son représentant vient tout juste de le dire, il faudrait que cela cesse. Est-ce que cela n'est pas un retour en arrière quand on voit que l'accord de paix a été signé et qu'on empêche certaines communautés de circuler librement?
Non, ce n'est pas du tout un retour en arrière parce qu'il ne s'agit pas du processus en fait. Mais dans un conflit, après un conflit, si vous avez des hommes armés, l'arme déjà devient la force. Le pays étant dans la situation actuelle, les autorités étant faibles, ou sinon absentes en certains points, il est évident qu'il faut une certaine autorité. Et celui qui a l'arme, c'est lui l'autorité. Alors que quelqu'un qui a vécu dans un contexte démocratique a un autre réflexe. Donc du coup, les rapports de force ne sont plus les mêmes. Donc c'est des conflits qui s'installent dans ce processus. Ce n'est nullement une remise en cause de l'accord issu du processus d'Alger. Mais maintenant, il faudrait bien, pour ne pas laisser assez de temps, ne pas donner la possibilité à ces gens de continuer à agir de façon impunie, il est temps qu'effectivement l'État s'implique davantage pour aller occuper ces différentes zones. C'est de ça qu'il s'agit en fait.
Alors, M. Sidi Mohamed Ishrach, est-ce que l'État, la MINUSMA, les forces étrangères qui sont présentes dans la zone sont intervenues au cours de ces affrontements?
Je vais un peu poursuivre les raisonnements de M. Bokoum. Effectivement, le fait que avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, le fait que l'État est absent de la région de Kidal fait qu'il n'y a pas de médiateur. Parce que, comme vous le savez, le rôle de l'État, c'est d'être à équidistance des citoyens et de protéger tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Donc, l'État étant absent, cette mission d'équilibre n'est pas assurée au niveau de la région. Il reste donc la société civile. Alors, la société civile de Kidal, comme vous le savez, l'essentiel des cadres qui constituent la société civile est soit réfugié hors du pays, soit déplacé à l'intérieur du Mali. Ça fait qu'en réalité, en matière de conciliation, le terrain à Kidal est vide et les acteurs, la majorité, en tout cas la grande partie des acteurs qui sont à Kidal se réclament d'un côté ou de l'autre. Cela fait que pratiquement aujourd'hui, il est très très difficile de trouver des conciliateurs ou des médiateurs au sein même de la région. Mais nous sommes en train de nous employer au niveau de Bamako pour essayer de mettre en branle les différents mécanismes traditionnels de règlement des conflits, même si nous sommes conscients que c'est une action aussi qui peut être très très limitée. Maintenant, par rapport à votre question, je crois qu'effectivement il y a lieu de... Rappelez-moi votre question, s'il vous plaît.
Est-ce que la MINUSMA, par exemple, est intervenue, les forces étrangères qui sont présentes
là-bas? Effectivement, ça c'est encore l'autre équation qui, j'avoue sincèrement que en matière de sécurisation des citoyens, de sécurisation de la ville, l'action de la MINUSMA n'est pas très visible. Mais vous savez que la MINUSMA elle-même a été à plusieurs reprises victime d'actes répréhensibles, d'attentats, etc.
C'est tout à fait. La dernière attaque a fait 4 morts parmi les casques bleus.
Voilà. Donc, cela fait que le mandat actuel de l'AMINUSMA fait que les personnes de l'AMINUSMA sont obligées d'être très prudentes. Parce que chaque fois que nous nous demandons à l'AMINUSMA d'intervenir, ils nous disent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter des gens, sauf ceux qui s'attaquent à eux. Et par conséquent, je trouve que non, je dirais vraiment pour résumer, non, que l'AMINUSMA ne participe pas suffisamment à la sécurisation de la ville, en tout cas en ce qui concerne la ville de Kidal.
Alors, M. Bokoum, même si son mandat ne lui permet pas d'aller chercher, mais en cas de conflit, l'AMINUSMA ne peut-elle pas intervenir?
Non, c'est très délicat pour l'AMINUSMA parce que l'AMINUSMA doit avoir une position neutre. Alors que comme vient de le dire M. le gouverneur tout de suite, même eux, en leur sein, la réconciliation n'étant pas un acquis déjà, ça pose problème. Parce que vous avez un esprit partisan. Donc la réconciliation et le dialogue devient un peu difficile parce que chacun, tu choisis soit la SEMA ou la plateforme, donc il y a un clivage. Donc de ce point de vue, c'est difficile pour l'AMINUSMA d'intervenir, sinon elle serait taxée de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Mais ce qu'il faille faire, c'est qu'il faut rapidement qu'on trouve les moyens de redéployer l'armée malienne. En fait, c'est ça la vraie équation. Parce que c'est nos concitoyens, nous pouvons mieux les parler. Maintenant, il faut que ces populations acceptent le retour de l'armée. D'où la notion d'un dialogue avec des mécanismes traditionnels pour que, parce que vous savez, dans ces zones, il y a des clivages. C'est que dans notre jargon, nous appelons un peu les grands électeurs comparés au système américain, qui consiste à dire qu'il y a des grandes familles à Kidal qui tirent les ficelles. Donc il faut maintenant trouver ces relais à Bamako, essayer de les parler pour qu'ils acceptent de s'écouter et d'être ensemble. Donc c'est autour de ce dialogue qu'on va pouvoir construire l'acceptation maintenant du retour de l'armée. Et une fois que l'armée malienne serait là en nombre suffisant, je pense que ce mécanisme de police, de sécurisation, serait à même de mieux fonctionner.
Oui. Et on voit même déjà que la coordination des mouvements de la Zawad CMA et le groupe d'autodéfense Touareg Imrad et Ali Gatcha se rejettent la responsabilité. Et le gouverneur l'a dit tout de suite, lui, il voudrait rester neutre, donc on ne pourrait pas savoir qui est l'auteur de ces actes. Mais certains pensent que derrière ces conflits se cachent également des intérêts liés notamment au trafic de drogue. Qu'en pensez-vous?
Mais bien sûr, vous savez, quand j'entends les gens dire que l'intégrité du pays est menacé, on entend plein de choses, sous-entendu l'aspect de la révolution constitutionnelle quand tu regardes entre les lignes. Mais en réalité, il n'en est rien. L'insécurité aujourd'hui, ce n'est pas entre nous et le mouvement de l'Azawad. Cet aspect, on l'a dépassé. Ce n'est pas entre nous et la plateforme. Et ce n'est pas encore une agression extérieure. Donc c'est un conflit interne qu'il s'agit maintenant de gérer.
Interne entre les différentes communautés?
Mais bien sûr, parce qu'on a trois groupes. On a l'État malien, qui est considéré aujourd'hui avec l'élan de partition qui était là déjà, qui constitue un mouvement, et la SEMA et les plateformes, les indépendantistes et tout ça. Mais en filigrane, il faut comprendre que derrière tout ça, le Moujaou et les islamistes qui étaient derrière tout ça, qui ont donné assez de contenu à ce conflit, étaient purement assis sur le trafic de stupéfiants et des armes. Non. C'est ce qui justifie aujourd'hui que le Nord est plein de munitions, de caches d'armes. Donc les attaques, elles sont récurrentes parce qu'ils ne se déplacent même pas avec les armes. Ils sont confondus, ils se confondent à la population et ils connaissent là où se trouvent les caches d'armes. Il suffit d'aller les chercher, mettre une attaque et ensuite aller les recacher. Donc ça devient compliqué. Donc d'où le financement en grande partie. C'est vrai qu'à un moment donné de ce conflit, il y avait un soutien de certains pays occidentaux qui pensaient que l'état-major était brimé par le Sud et tout ça. Mais après ce soutien politique, je pense qu'en grande partie, le soutien financier est carrément issu du processus de trafic de stupéfiants et des armes.
Sidi Mohamed Ishrach, vous êtes gouverneur de Kidal. Pensez-vous, partagez-vous cette idée de M. Boubacar Bokoum?
Oui, sauf que aujourd'hui, il n'y a pas de cache d'armes. Les armes au nord, écoutez, je ne sais pas à quel pays je peux faire allusion, mais les armes au nord, on ne les cache pas. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, il est avec son arme ou bien 16 armes, parce que vous pouvez en trouver un qui porte sur lui tout un arsenal. La clé du problème, hein, monsieur Bokoum l'a bien souligné, la clé du problème, c'est le retour de l'État. Monsieur Touré, je vais peut-être insister sur le fait que dans aucun pays sur la Terre, les citoyens ne vivent sans la présence de l'État. Parce qu'il n'y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que l'État qui peut assurer les équilibres, il n'y a que l'État qui peut assurer la sécurité de tout le monde, il n'y a que l'État qui peut protéger les citoyens contre les citoyens. Et par conséquent, tant qu'il n'y a pas l'État dans la région de Kidal, et quand je parle de l'État, je parle de l'État et de la force publique, tant qu'il n'y a pas l'État dans la région de Kidal, tout groupe qui se sent puissant va s'attaquer au groupe voisin parce qu'il y a des intérêts locaux, il y a des histoires de drogue, il y a l'islamisme, il y a les djihadismes, il y a plein. Et puis, en dehors de tout ça, il y a simplement des problèmes locaux, de leadership, de vieilles querelles ancestrales, des chefferies traditionnelles qui veulent se maintenir contre des groupes qui veulent acquérir leur autonomie, etc. La société Touareg d'aujourd'hui est une société qui est en pleine mutation. C'est une société qui était une société très fortement hiérarchisée, féodale même, je vais dire, et qui d'un coup découvre les contraintes de la démocratie et de l'égalité des citoyens. Et la société heurte de plein fouet cette modernité et elle a des difficultés pour traverser ce mur de la modernité. Donc elle se recroqueville sur elle-même et cela provoque des affrontements internes. Je crois que c'est des problèmes qui sont assez complexes, mais il n'y a encore une fois que la présence de l'État pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir calmer et surtout pour pouvoir équilibrer et arbitrer entre les différentes tendances.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, nous parlons ce soir d'insécurité et de processus de paix. Quelle solution? Nos invités sont quatre, Sidi Mohamed Ishrach, gouverneur de Kidal, et Boubacar Bokoum, politologue. Les deux autres invités qui avaient confirmé leur participation ne sont pas venus. Il s'agit de Ilad Ag Mohamed, porte-parole d'ACMA, et Baba Dakono, juriste. Alors, nous allons poursuivre avec ce débat. Monsieur Bokoum, quel est l'impact de ces conflits sur le processus de paix?
Non, vous savez, déjà dans un processus de paix, il s'agit de se parler de façon lucide et de pouvoir avoir des compromis pour aller dans le renforcement de cette cohésion. Alors, donc, si vous avez des attaques, ça veut dire qu'il y a des morts, il y a des frustrés. Donc, cela, effectivement, est une grosse entrave au débat. Parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un d'un camp et puis lui demander d'accepter des compromis. Ça, c'est très compliqué. Donc, il va falloir que ces affrontements cessent. Et à partir de là, le processus, il peut prendre un bon envol. Mais qu'à cela ne tienne, ces quelques attaques ne peuvent pas être une entrave majeure au processus, parce que le processus, ce n'est pas que le Mali, c'est les partenaires internationaux, c'est toutes les composantes à l'intérieur. Donc c'est vrai, ça ralentit le processus, mais ça ne le freine pas.
Alors, deux ans après la signature de l'accord, l'insécurité ne cesse de se développer. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas également mettre un mécanisme pour réconcilier les communautés entre elles-mêmes d'abord, avant de se mettre dans la mise en œuvre de l'accord?
Non, dans l'agencement, ça pose énormément de problèmes, parce que les problèmes intercommunautaires ne datent pas de cette crise. Elles sont lointaines, comme M. le gouverneur vient de dire tout à l'heure, notre société est très complexe. Le problème auquel il a fait allusion n'est pas que Touareg, même au sud ici, on a beaucoup de clivages, vous êtes Keïta, Traoré, Mandéchi, et voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que l'hiérarchisation de notre société aujourd'hui, la mutation à laquelle il fait allusion, pose problème. Donc il y a plein de problèmes intercommunautaires. On ne peut pas attendre la résolution de tous ces problèmes pour aller dans le processus. Il faut qu'on conjugue tous ces facteurs et essayer de progresser. Ce qui est important, c'est que les gens se sentent déjà en sécurité. Parce que ça, c'est la présence de l'État. Si vous avez un État qui joue les fonctions régaliennes comme cela se doit, vous allez rassurer. Et c'est dans cette assurance que la communication et le dialogue est possible. Parce que certains se sentent brimés. Alors, quand vous venez discuter sans l'État, sans l'autorité, sans la fermeté, sans pouvoir aller à l'équité, vous ne pouvez pas rassurer une population pour aller en synergie avec l'autre. C'est lorsque, vous êtes capable de dire la vérité entre deux communautés et être à mesure de trancher, dire qui a raison, même si après on doit derrière venir demander pardon, mais quand même il faut être capable de trancher. Donc si on ne rentre pas dans la logique déjà de pouvoir assurer cet équilibre entre les différentes communautés, il est impossible d'aller à cette forme de réconciliation quand même à long terme.
Alors ces violences interviennent juste après la 18e session du comité de suivi de l'accord. Écoutons les conclusions de cette session avec notre porteur Assetou Kanté.
Cette nouvelle réunion du comité de suivi de l'accord intervient quelques jours après la rencontre d'Alger. La médiation internationale avait dénoncé la mauvaise foi de la CMA à faire avancer le processus. Au sortir de cette 18e session du CSA, le chef de la médiation se réjouit des avancées obtenues. Ahmed Boutache, chef de file de la médiation internationale et président du CSA.
Les décisions, c'est principalement d'accélérer les travaux de la commission nationale des DR, de la mise en place donc des MOC, et également la mise en place d'un chronogramme d'urgence qui doit être élaboré et mis en œuvre avant le 20 juin en ce qui concerne l'effectivité du fonctionnement des autorités intérimaires et l'installation du MOC à Kidal. C'est la mise en place d'un autre chronogramme qui, lui, s'étalera sur une période un peu plus longue et qui consiste à réaliser l'ensemble des actions qui n'ont pas pu l'être durant les deux dernières années.
L'accord d'Alger peine à être effectif dans son application depuis sa signature le 20 juin 2015. Les attaques terroristes, vols et actes de banditisme se sont multipliés et ont déstabilisé le mécanisme opérationnel de coordination à Gao. Selon le président du CSA, c'est aux partis signataires de jouer leur responsabilité face à cette situation.
Le CSA, encore une fois, ne peut pas faire. Ce sont les autres partis, notamment la MINUSMA et les autorités maliennes concernées qui doivent prendre un certain nombre de mesures pour mettre un terme à ce genre de situation.
Cependant, des étapes importantes ont été franchies, précise Ahmed Boutache, qui sollicite l'engagement des parties signataires de l'accord.
Il faut un engagement plus important des parties maliennes. Il faut davantage de sincérité dans cet engagement. Et il faut surtout que les parties maliennes se fassent confiance et qu'elles soient encouragées par l'opinion publique malienne à travailler dans ce sens.
Alors, M. Sidi Mohamed Ishrach, vous êtes gouverneur de Kidal. Qu'est-ce que Ahmed Boutache veut dire quand il parle de plus d'engagement, plus de sincérité au niveau des différentes parties?
Oui, mais si vous avez lu l'accord lui-même, il y a un article, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a un article de l'accord qui dit que la mise en œuvre de l'accord incombe aux parties maliennes. Et l'article dit très clairement que c'est l'engagement des parties maliennes qui est la garantie, la meilleure garantie de la mise en œuvre de l'accord. Or, il se trouve effectivement qu'on a assisté à beaucoup de va-et-vient qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Je crois qu'il y a eu, il y a deux semaines, une lettre assez dure de la médiation à la CEMA. J'ai bien apprécié quand même que lors du la dernière session du CSA, la CEMA a accepté le retour de l'administration dans la région, ce qui est une étape à laquelle il s'était toujours refusé. Vous avez abordé tout à l'heure avec M. Boukoum les problèmes de mise en œuvre de l'accord. Moi, je crois que les dissensions actuelles entre les groupes armés ne peuvent pas être un frein à la mise en œuvre de l'accord parce que les groupes armés ne sont qu'une partie. Mais ce qui est important, c'est pour la stabilité du pays, pour son avenir et surtout pour que la rébellion qui a sévi dans les pays en 2012 ne se reproduise pas. Or, pour cela, il faudrait que les gens du Nord, quelles que soient de toutes les régions, pas seulement la région de Kidal, puissent tirer les meilleures parties possibles des dispositions de l'accord, surtout en matière de gouvernance locale et de développement. Il se trouve malheureusement que si la mésentente actuelle entre les différents groupes au niveau de toutes les régions se poursuivent, il sera difficile d'obtenir la cohésion qui est nécessaire pour tirer les meilleurs avantages du processus de régionalisation, du développement et surtout des pouvoirs que l'accord va conférer aux autorités élues au niveau du niveau local jusqu'au niveau régional. Cela veut dire que, de mon point de vue, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas la cohésion, s'il n'y a pas l'entente, les germes d'affrontement local, donc de rébellion, de remise en cause de l'État, de son autorité, des institutions, etc., cette remise en cause peut survenir à tout moment. Et donc, cela peut nous faire des marches arrière qui sont souvent, qui seront très regrettables pour le pays.
Alors, M. Boukoum, Ahmed Boutache l'a dit tout de suite par rapport à l'opérationnalisation du MOC et le retour de l'administration. C'est attendu d'ici le 20 juin. Mais avec ces violences, est-ce que c'est toujours possible?
Bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas d'obstacle majeur à l'installation du MOC. En réalité, quand vous regardez l'opérationnalisation du MOC, c'est surtout dû plutôt à des problèmes financiers. Quand on accuse la partie malienne de traîner les pieds, je ne suis pas totalement d'accord avec cette analyse. Ce n'est pas que la partie malienne, pour ne pas dire ce n'est pas l'État malien, mais peut-être une partie qui consiste, les groupes armés, la SEMA, la plateforme. C'est là où il y a le problème. Parce que les grandes parties qui incombaient à l'État malien, c'était effectivement les réformes en termes institutionnels, les lois qu'il fallait prendre pour s'adapter et se conformer à l'esprit de l'accord issu du processus d'Alger. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, l'État est conforme. Maintenant, en termes d'application, les moyens et la mauvaise foi des autres de l'autre côté posent problème. Donc c'est pourquoi il faut mettre en place une structure de médiation avancée. J'ai l'impression que le comité de suivi ne suit pas bien et a très longtemps traîné les pieds pour indexer les auteurs qui font que cela traîne. Donc du coup, la dernière réunion, on a pu constater que la SEMA a été indexée. Je pense qu'ils sont rentrés dans les rangs. Il n'y a pas de raison, parce que la communauté internationale étant la garantie, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la SEMA ou la plateforme ait envie de se mettre la communauté internationale sur le dos. Donc, peut-être que l'État malien, en fonction des conflits qu'il y a eu, la faiblesse de l'État fait qu'aujourd'hui, l'État n'a pas la poigne nécessaire pour les ramener dans leur rang. Mais je pense que la communauté internationale, avec un peu de pression, peut accompagner l'État malien pour que les dissidences s'arrêtent.
Alors, par rapport à ce suivi, Ahmed Boutache l'a dit lors de la 18e session du CSA qu'un comité devrait être mis en place pour suivre réellement sur le terrain, ne pas attendre à chaque session du CSA pour faire le bilan. Est-ce que cela rassure?
Oui, mais il aurait fallu le faire en amont. Mais bien sûr, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce serait une bonne chose.
Alors, M. Sidi Mohamed Boutache, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez également que le retour de l'administration et l'opérationnalisation du MOC à Kidal est possible d'ici le 20 juin?
Écoutez, moi, je maintiens à la déclaration du responsable de la SEMA au niveau du CSA, M. Olcidat, qui a affirmé sur les antennes de la radio qu'il y a une entente avec le gouvernement malien pour que l'État malien commence son redéploiement dans la région de Kidal à partir du 20 ou bien avant le 20 juin. Donc, pour le moment, je maintiens à ça et j'espère que ça se fera dans ces délais-là. Ou en tout cas que ça sera possible, en tout cas que ça débutera dans ces délais, même si ça doit aller au-delà. Je vais dire que le retour de l'administration dans la région est très important. C'est très important pour et même une urgence. Parce que vous savez que le 9 juillet, on votera pour le référendum.
Par rapport à ce vote du référendum, on a une déclaration de Ilad Agmohamed, porte-parole de la CMA, qui dit qu'ils ne sont pas d'accord, les responsables de la CMA ne sont pas d'accord avec ce projet de nouvelle constitution. Écoutons-le.
Moi, je pense que les conditions ne sont nullement réunies, pas seulement à Kidal. Pour ce qui concerne la CMA, elle n'acceptera jamais des élections tant qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui vivent en dehors du territoire. On l'a toujours dénoncé depuis les élections antérieures. Et jusqu'à présent, on continue à les dénoncer. Je crois que c'est des personnes qui ont le droit de s'exprimer pour tout ce qui concerne la vie de ce pays. Et ensuite, ce projet de constitution, est-ce qu'il a même pris en compte les préoccupations des uns et des autres? À mon avis, rien n'a changé, à l'exception du Sénat, bien sûr, ou des pouvoirs du président de la République qui ont été renforcés. Je ne vois pas ce qui a changé.
Alors, M. Ishrach, est-ce que cette déclaration de Ilha Dag Mohamed vous rassure?
Non, il ne m'appartient pas d'apprécier les déclarations des responsables de la CEMA. Les interlocuteurs de la CEMA, c'est le gouvernement et le comité de suivi de l'accord.
Quand un de ses porte-parole fait cette déclaration, est-ce que cela ne donne pas à réfléchir?
Non, ça donne à réfléchir au citoyen lambda que je suis, mais l'appréciation politique doit être faite à un autre niveau. Ce qui m'a rassuré, c'est la déclaration du responsable de la CEMA au CSA, M. Olcidat, qui a dit quand même qu'ils sont en retour pour le retour de l'État avant le 20 juin et qu'ils sont d'accord pour la tenue du référendum le 9 juillet. Et je crois savoir, ça n'engage que moi, je crois savoir que la CEMA a quand même été consultée à Bamako au niveau des différentes commissions sur l'organisation du référendum du 9 juillet. Maintenant, s'il y a d'autres volte-face, j'avoue sincèrement que je prends la chose telle qu'elle est, mais je crois qu'on est un peu habitué à ça. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une grande surprise.
Donc vous pensez que le référendum pourra se tenir le 9 juillet à Kidal?
Écoutez, moi je le souhaite, je crois que si vous demandez au citoyen lambda de Kidal, il vous dira que lui il souhaite que le référendum se tienne et que la paix revienne dans la région. Maintenant, le citoyen lambda de Kidal malheureusement n'a pas droit à la parole et c'est d'autres qui décident pour lui, donc je ne fais qu'observer au même titre que...
Qui décide pour lui?
Ah, c'est les patrons de la CEMA qui décident pour lui.
Alors, Monsieur Bokoum, est-ce que vous comprenez cela quand Monsieur Ishrach dit tout de suite que la CEMA a été consultée et que le porte-parole de la CEMA vient dire qu'eux, ils n'ont pas été consultés et qu'ils ne sont pas d'accord?
Non, de toutes les façons, hein, vous savez, chacun est dans son rôle, on fait monter les enchères. Dire qu'on n'a pas été consulté, cela n'est pas exact. Un processus constitutionnel aussi, il ne s'agit pas d'aller consulter tout le monde. Voilà, c'est un État qui est là, qui prend des dispositions, qui prend des techniciens pour élaborer un projet. Maintenant, la consultation, c'est quoi? C'est le référendum. Et l'État est en train de mettre en place un processus qui consiste à dire que le Malien lambda va être consulté le 9 pour qu'il dise oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc, moi, je ne vois aucun problème. Maintenant, quand il fait allusion à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, mais ça, c'est une fuite en avant. Ça ne tient pas à la route. Parce que de toutes les façons, personne n'empêche aujourd'hui, en tout cas du côté de l'État malien, personne n'empêche à ces réfugiés de revenir au Mali. Donc c'est eux
Est-ce que les conditions sécuritaires permettent le retour?
Oui, mais les conditions sécuritaires qui créent l'insécurité. Est-ce que c'est l'État malien qui crée l'insécurité? C'est encore eux qui sont le problème. Donc on parle d'attaque, qu'on parle d'agression, qu'on parle de banditisme, mais c'est qui?
Mais c'est pas les groupes armés seulement, il y a les mouvements terroristes qui revendiquent
les mouvements attaques. Terroristes, ils sont pas en grand nombre. Le problème même fondamental, c'est de faire le distinguo entre les mouvements terroristes et les mouvements qui se sont dit séparatistes à un certain moment donné. Donc, s'ils acceptent de revenir au bercail, c'est de créer les conditions idoines pour qu'on arrive à cette paix. Donc, du coup, si ils savent qu'ils veulent que nos compatriotes qui sont de l'autre côté reviennent, c'est à eux aussi d'aller très fort dans le processus pour que cela puisse être fait. Maintenant, au-delà de ça, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils sont combien? Nous sommes combien de Maliens? Est-ce que vous pensez que les 15 millions ou les 16 millions de Maliens qui nous sommes vont tous aller voter? Je ne pense pas. Il y a des gens qui ne sont même pas déplacés, qui aujourd'hui, peut-être n'ont pas eu leur carte NINA, qui seront dans l'impossibilité de voter. Donc, il y a des problèmes qui sont réels. Mais cela ne veut pas dire que l'État doit s'arrêter ou que le Mali doit s'arrêter parce que un ou deux individus n'ont pas eu la latitude de voter. Et le problème auquel il fait allusion, il nous donne quel timing pour le résoudre? Ça veut dire que pour aller à une révision constitutionnelle, il faudrait qu'on attende, parce qu'on est dans un processus, on n'a pas dit qu'on a tout de suite la paix. Si c'était le cas, je suis d'accord. Mais quand on est dans un processus, est-ce qu'il nous dira que ce processus va prendre fin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et c'est en ce moment qu'il faut aller à une révision constitutionnelle? La La révision constitutionnelle à nous s'impose, parce que depuis fort longtemps, nous avons compris que la constitution de 92 a présenté de fortes lacunes, mais il faut la corriger. Maintenant, on ne peut pas avoir l'unanimité autour d'un projet, cela est clair.
Mais qu'est-ce que le contenu de ce projet va changer dans le processus de paix?
Mais ça change déjà beaucoup de choses quand tu regardes, quand il parle de renforcement des pouvoirs du président de la République. J'ai dit, c'est le renforcement de l'institution. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous savez, la démocratie, elle a ses limites. Aujourd'hui, les chefs d'État, généralement africains, sont pris dans le piège de la démocratie. Ça veut dire quoi? C'est la majorité qui décide. Donc le leadership du coup disparaît. C'est pourquoi aujourd'hui les systèmes sont pris en otage. Quand je prends l'exemple du Mali, c'est les islamistes plus ou moins qui décident. Islamistes entre guillemets, je m'excuse un peu de caricaturer de cette façon. Mais c'est de dire que l'État se trouve faible face à la population majoritaire. Parce que la majorité, elle, a une autre vision de la gouvernance. Maintenant, quand vous voulez être président de la République, vous êtes confronté à ce système démocratique qui montre ses faiblesses dans nos États. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que depuis l'avènement de la démocratie, on a connu des États très faibles, qui ne parviennent pas à imposer la vision du gouvernement, qui ne parviennent pas à imposer la vision du président de la République. Donc, du coup, c'est un désordre. Donc, l'État n'est pas suffisamment fort. Donc, il ne s'agit pas de voir le régime aujourd'hui qui est en place. Il s'agit de voir les fondamentaux de notre institution qui vont être renforcés par la capacité du président de la République et l'impulsion qu'il pourrait donner à la gouvernance. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'une fois qu'on a des institutions fortes, nous avons un État fort. Donc, de ce point de vue, le principe démocratique qui consiste à dire que c'est la majorité qui vote, c'est un certain nombre d'éléments qui permettent aux gouvernants de gouverner. C'est vrai que dans les grandes démocraties, ça marche. Mais chez nous, on n'a pas encore cette masse critique d'intellectuels, d'analystes, de gens capables de donner une forte impulsion à notre démocratie. Donc, si tout le monde était éclairé et que les choses se passaient normalement, peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, on a besoin de travailler plus ou moins sur deux axes. Une gouvernance à la verticale et qui peut être en même temps transversale. Mais quand tu vas seulement sur la transversale, tu laisses tomber la verticalité, ça veut dire que tu ne pourras pas gouverner. C'est alors, ça la réalité.
Nous sommes toujours dans l'insécurité, on ne va pas sortir de ce cadre. Est-ce que quand les gens parlent de la violation de l'article 118 concernant l'intégrité, concernant la situation d'insécurité où on se trouve, qu'en pensez-vous?
Je sais que c'est un débat politique. Vous savez, quand vous avez un État, vous avez un parti au pouvoir, vous avez un parti de l'opposition, chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Mais cela est tout à fait normal. Maintenant, l'article qui est incriminé parle de l'intégrité du territoire national. À la date d'aujourd'hui, le Mali n'est pas attaqué par un pays étranger.
Oui, mais il y a une partie du pays qui est occupée.
Occupée par qui?
Où l'État, on parle de retour de l'administration.
Je suis d'accord. Occupée par qui?
Par des Maliens, mais l'État.
Ben voilà la notion. Non, l'intégrité d'un territoire, ce n'est pas par des Maliens. Non, ça c'est une situation de crise, d'insurrection, de tout ce que tu veux. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais ce n'est pas l'intégrité du territoire qui est remis en cause. Donc, cela, il faut le mettre de côté.
Monsieur Ishrach, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Bokoum?
Écoutez, moi, je suis pas aussi versé dans les sciences juridiques que monsieur Bokoum. Mais moi, j'essaie d'être pratique et simplement de voir comment est-ce que notre pays peut organiser cette consultation avec la participation du maximum des citoyens. J'ai écouté tout à l'heure mon jeune frère l'aide pour ce qui concerne les réfugiés. Je voudrais savoir, peut-être que M. Bokoum peut éclairer votre auditoire. Est-ce que les réfugiés ne peuvent pas voter là où ils sont pour le référendum? Est-ce que les réfugiés ne peuvent pas voter au niveau des camps de réfugiés?
Ils doivent pouvoir le faire.
Voilà, donc si cela est possible, je crois que la préoccupation de M. Lade peut être prise en charge. L'essentiel étant que les citoyens participent à la consultation. Maintenant, il y a une chose quand même sur laquelle je voulais insister. Je crois que la révision constitutionnelle a été précipitée par la nécessité de prendre en charge les contenus de l'accord. Donc je crois que si la CEMA est vraiment engagée, je ne dis pas seulement la CEMA, excusez-moi, si tous les groupes armés veulent se battre sérieusement et sincèrement pour que l'accord de paix aboutisse au profit des populations, ils doivent tout faire pour en faciliter la mise en œuvre. Et le vote de la nouvelle constitution est un élément important dans la mise en œuvre de l'accord, parce que c'est la nouvelle constitution qui met en place les dispositifs de régionalisation, donc d'opérationnalisation des autorités régionales qui vont gérer les préoccupations des populations, leur développement, leur sécurité, etc. Et c'est en même temps dans la nouvelle constitution qu'il y aura la préoccupation qui a été émise par les groupes armés lors des négociations à Alger, à savoir celle de la création d'un Sénat pour y faire participer les notables, les sages, les imams, la jeunesse, les femmes, etc. C'est des préoccupations qui avaient été soulevées par les
Mais avec cette situation d'insécurité, est-ce que la population de Kidal a accès à ce document? Est-ce qu'elle connaît le contenu de ce document?
Non, je crois que sans peut-être tailler un secret, je crois que il y aura des sessions de sensibilisation, il y aura une campagne de sensibilisation autour du projet. Il y aura, je crois, les projets seront disponibles. On ne peut pas demander aux gens d'aller voter pour un texte qu'ils n'ont pas lu.
Mais est-ce que le temps nous permettra de faire une bonne sensibilisation?
Non, ça, je sais que le texte sera traduit dans les différentes langues, qu'il sera mis à la disposition de tous les Maliens. On ne peut pas. Ça, je pense que c'est une préoccupation qui sera gérée au niveau des autorités compétentes. Je ne pense pas qu'il y ait des soucis à ce niveau.
Alors, quelle est la situation aujourd'hui à Kidal? Est-ce
Écoutez,
que la situation est calme?
Aujourd'hui à Kidal, elle n'est pas bonne. Très honnêtement, elle n'est pas bonne. Elle est meilleure. Elle est plus mauvaise qu'il y a 10 jours. Elle est plus mauvaise qu'il y a 10 jours, parce qu'il y a 10 jours, les gens pouvaient, les nomades d'Oman pouvaient rentrer et sortir de Kidal paisiblement. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Aujourd'hui, dans les campagnes même, les nomades de tout bord, hein, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, les gens ont peur, ils se cachent, les hommes vont dans les montagnes, ils laissent les femmes, les enfants à la maison, les animaux, les biens sont menacés, vous ne pouvez pas circuler avec un véhicule si vous n'êtes pas armé, et c'est très difficile. Aujourd'hui, la situation dans la région de Kidal est très difficile.
Et dans ce contexte, est-ce que la population n'est pas plus préoccupée par sa sécurité que par autre chose?
Aujourd'hui, la population est préoccupée par la sécurité. Or, le retour de la sécurité passe par le retour de l'État. Le retour de l'État passe par l'entente entre les groupes armés, d'abord entre et d'abord ensuite entre eux et l'État. Donc, véritablement, c'est un cercle vicieux. Et aucune étape n'est plus importante que l'autre, parce que la situation s'est tellement détériorée qu'aujourd'hui, vous avez de la peine à indexer une priorité.
Alors, M. Bokoum, une rencontre des notabilités des communautés est prévue bientôt pour établir le calme et la cohésion sociale. Également, le ministre Agerlaf devrait se rendre aujourd'hui à Kidal. Est-ce que cela pourrait changer la situation?
Mais on peut toujours l'espérer, parce que vous savez, il faut que les gens se parlent. Le gouverneur de Kidal vient de le signaler tout à l'heure, les gens ont peur, les gens ne peuvent pas se déplacer. Et qui menace qui en réalité? Ce n'est pas l'État malien qui menace. Donc ça veut dire que quelque part, les groupes armés qui sont sur l'espace de Kidal, c'est eux qui posent problème. Donc la population sont juste victimes de ce conflit entre ces deux groupes armés. Donc aujourd'hui, que ce déplacement puisse permettre aux différents leaders de se retrouver, de se parler et de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, c'est ce qui est souhaitable. Je pense bien qu'ils peuvent le réussir. Agerlaf, il est de la zone. Depuis fort longtemps, il a œuvré pour essayer d'arrondir les angles entre les différentes communautés. Aujourd'hui, en tant que ministre, je pense qu'avec tous les sages conseils qu'il va recevoir des sages,
il pourra gérer la situation.
Je pense qu'il va pouvoir mettre les uns et les autres d'accord.
Ce qui met fin à cette édition, ça ne nous a pas permis de parler de la force G5 Sahel, mais nous aurons d'autres occasions pour en parler. On parlait ce soir d'insécurité et processus de paix. Quelle solution? Comme invité, nous avions Sidi Mohamed Ishrach, gouverneur de Kidal, et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré. Mamadou Ouattara était à la technique et la régie vidéo gérée par nous. Maxime Djiré, à la réalisation Moumine Sendebou. Merci et à demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dumandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.